Amis auditeurs, nous nous retrouvons pour le deuxième jour au Festival de cinéma Jean Carmet. J'arrive, je vous dis tout, complètement en retard. Il est 8h15 à ma montre. Une séance exceptionnelle vient de se dérouler. Une carte blanche proposée par un membre du jury second rôle. Et c'est une particularité très intéressante car chaque membre du jury second rôle propose un film au festival dans lequel il a joué ou elle a joué, et chaque projection est suivie d'une rencontre publique où les débats se prolongent avec un esprit bien sûr de convivialité. C'est ce moment de convivialité qui est en train d'exister tout de suite. La comédienne jury second rôle qui a eu cette carte blanche ce soir pour le deuxième jour s'appelle Maud Wheeler. Je l'ai sous mes yeux, elle discute avec du public. Et j'ai devant moi, Frédéric, tu es ma spectatrice témoin du festival. On s'est rencontrés hier pour l'ouverture. Comment vas-tu aujourd'hui, Frédéric ?
Très bien, parce que j'ai vu plusieurs films et il y a de très très beaux films, des très beaux personnages et vraiment aujourd'hui ça commence à monter crescendo. Hein.
Ça dépote. Est-ce que tu as vu, a priori oui, hein, tu as vu ce film proposé en carte blanche par Maud Wheeler intitulé « Toi non plus, tu n'as rien vu » de Béatrice Paulet 2022. C'est un film français, jour de fête, avec Maud Wheeler, Géraldine Nakache, Grégoire Collin, Roman Kolinka. Tu as assisté au film. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? L'histoire, quelle est-elle, Frédéric?
L'histoire, bah justement, c'est de deux amies qui sont avocates. Et
Claire et Sophie dans le film.
Claire, elle fait un déni de grossesse. Et ça amène qu'il y ait une enquête parce que, par contre, le bébé, il naît, mais apparemment, elle ne se rappelle plus de rien du tout. C'est un déni de grossesse. Mais en plus, parce que certaines femmes, même s'il y a un déni, quand elles accouchent, tout va bien. Que elle, apparemment, elle ne se rappelle de rien.
Alors là, quand je lis le petit texte du film, il est écrit « Claire, donc jouée par Maud Wheeler ». Va être accusée de tentative d'homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va alors assumer sa défense, sa copine. Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n'a-t-elle pas vu ni senti qu'elle était à nouveau enceinte? Est-ce que, Frédéric, dans le film, on aperçoit Claire tuer son bébé?
Enfin, justement, c'est ça qui la sauve à quelque part, c'est qu'elle ne l'a pas tué, son enfant.
Elle accouche chez elle.
Et en fait, cet enfant, elle l'enveloppe dans des linges, dans des serviettes, elle le met dans un sac plastique et elle va le poser sur le conteneur de poubelle dans la rue. Elle ne le met pas à l'intérieur. C'est ça qui a sauvé, c'est que le voisin qui promenait son chien, le chien ça l'a interpellé et l'enfant a pleuré. Et c'est ça quand même, à quelque part, qui la sauve, c'est qu'elle ne l'a pas tué. Mais là, en plus, dans son entourage, c'est là que sa copine Sophie joue là-dessus, c'est que son mari ne s'est pas rendu compte qu'elle était enceinte. Parce que comme elle a fait déni, donc son corps n'a pas bougé, tout son entourage, sa belle-mère, ses amis, elle est allée à l'hôpital faire des radios, des flashs, et donc personne ne s'est rendu compte. Et c'est là-dessus, on se rend compte qu'en France, c'est encore un truc de malade, quoi, parce que...
Un peu tabou.
Oui, oui, et puis c'est pas reconnu, quoi.
Ça veut dire qu'une femme qui fait un déni de grossesse, aujourd'hui, peut atterrir devant les tribunaux?
Tout à fait. Maud disait que en Allemagne, par contre, c'est différent. Ce déni de grossesse est reconnu et tout ça. Mais en France, encore en 2025, ce n'est pas reconnu. Et il y a des scientifiques, tout le monde se bat parce que il y en a qui disent sont pour, d'autres contre. Et elle racontait même que un jour, il y a trois pompiers qui amènent une femme à l'hôpital, qui avait des douleurs au ventre, c'était insupportable. Et quand ils arrivent, ils disent bah oui, on vous l'amène, elle a mal au ventre. Et l'infirmier qui était là et tout ça, ils disent mais attendez, elle est en train d'accoucher. Donc ce qui prouve que même des professionnels ne se rendent pas compte. Il faut que cette loi, enfin qu'il y ait une loi et puis qu'on arrête de prendre ces femmes pour des folles, quoi.
Tu as échangé un petit peu avec Maude Wheeler. Vous avez parlé de quoi précisément ?
Moi, je vais poser une question parce que je voulais savoir, quand elle a fait ce rôle, est-ce qu'elle était déjà maman ? Est-ce qu'elle avait déjà un enfant ?
Très bonne question. Et alors, la réponse ?
La réponse est oui.
Elle était déjà maman ?
Oui, d'une petite fille de 7 ans. Et elle nous racontait que c'est la première, enfin, ce rôle-là, quand elle rentrait chez elle, elle n'arrivait pas à s'en défaire. Mais c'est vraiment très... Non, mais elle est extra. Et c'est vrai que c'est un sacré rôle, quoi, parce que tout le monde ne peut pas le faire comme ça.
Hein. Tu es maman, toi, Frédéric ?
Non.
Donc, est-ce que tu as fait un déni de grossesse, on va dire non ?
Non, mais j'étais 100% pour cette femme. Je trouve que... Moi, je comprends, je suis sûre que ça existe, ça a toujours existé et ça existera toujours, ce déni de grossesse. Mais il faut franchement qu'on fasse une loi, quoi. Dès que le film était fini, il y avait quand même un truc qui pesait dans la salle, quoi.
Merci, Frédéric. Moi, j'aime beaucoup cette photo. D'ailleurs, je vais lui en parler d'emblée, oui. De cette photo.
Quand
elle est au tribunal, voilà. Où il y a en arrière-fond un policier. Et puis elle est sur le banc des accusés. Voilà, merci beaucoup Frédéric. On se voit bientôt, demain peut-être ou après-demain. Amis auditeurs, Maude va nous rejoindre. Alors Maude, je vais quand même vous parler de cette comédienne formée au Conservatoire National d'Art Dramatique. Maude Wheeler a joué au cinéma sous la direction de multiples réalisateurs. Elle a été nommée Révélation au César 2020 pour son rôle dans Perdri d'Erwan Leduc et a été récompensée d'un Quartz en 2024 pour son rôle dans le film intitulé La Voix Royale de Frédéric Mermoux. Un Quartz, c'est une récompense suisse. Salut, j'ai préparé un petit salon pour nous deux. Merci. Bonjour Maude.
Bonjour.
Bonsoir. J'étais en train de faire un petit peu ta bio. Quel parcours. J'étais en train de parler notamment du Quartz. Tu tombes à point nommé, que tu as reçu en 2024. C'est une récompense du cinéma suisse pour un second rôle. Alors là, on est pile dans le thème. Tu fais partie du jury second rôle que tu as reçu pour un film super, alors que je n'ai pas vu, mais j'en ai vraiment entendu parler, Voix Royale de Frédéric Mermoux. Comment vas-tu, Maude ?
Ah, je vous remercie. Ça va. En plus, aujourd'hui, c'est peut-être un cessez-le-feu. J'espère qu'il va tenir. Donc, ça peut être une très belle journée.
Cessez-le-feu.
À Gaza.
Il y a un cessez-le-feu ?
Alors, on attend de voir, ça tient. Mais en tout cas, les deux parties ont signé. Et voilà. Donc, si, mais bon, on est encore très précautionneux avec... tout le monde est très précautionneux. Mais voilà, j'espère que ce sera une bonne journée.
Là, tu m'informes. Donc, merci beaucoup.
Il était 2h30 en France. Et ça a été confirmé après... le Premier ministre israélien résiste encore un peu à l'idée. Hein.
C'est une très bonne nouvelle. Alors, Maude, je m'excuse parce que je n'ai pas vu le film, je n'ai pas assisté à la rencontre du public, je suis arrivé à la fin, mais je voulais absolument te rencontrer parce que ce film-là que tu as choisi, intitulé « Toi non plus, tu n'as rien vu », c'est ton choix. Pourquoi je voulais absolument te rencontrer ? Parce que je te connais un petit peu de nom, de film, et je trouve que cette photo... Moi, elle m'a touché, elle me parle. Est-ce que je peux te dire un petit peu ce qu'elle m'évoque ?
Bien sûr !
On a en arrière-plan un policier, tu es au tribunal, sur le banc des accusés, et on voit une jeune femme. En fait, quand je te regarde, je vois toutes les femmes. C'est fort. Pourquoi ce choix de film, Maude ?
Oh, merci pour ce ressenti. Effectivement, il y avait quelque chose de...
d'universel. On voit quelqu'un d'universel, là.
Une chose du... C'est quoi cette féminité ? C'est quoi cette maternité ? C'est un grand mystère, hein, et c'est vrai que ce film m'a fait plonger au cœur de ce mystère. Moi, ce film, et c'est ce que j'ai dit un petit peu dans l'échange avec le public, c'est que c'est rare que je dise ça parce que je suis quelqu'un qui aime bien cloisonner mon métier et ma vie privée, mais ce film, j'y ai laissé des plumes. Parce qu'il fallait faire un travail qui était plus qu'une... La caméra, elle voit ce qui se passe derrière le regard. Donc, quand on joue devant la caméra, il faut modifier sa pensée pour que ce soit donné à voir par la caméra. Là, il fallait aller encore plus profondément. Il fallait plonger vraiment dans les entrailles. Et qu'est-ce que, de quoi il s'agit quand, on n'a plus confiance en son propre corps, qu'on a été dupé par son propre corps, que son corps a fabriqué la vie à son insu. Quel trouble ça ! Et de me poser cette question et d'essayer de faire l'expérience par empathie avec ça a été absolument troublant. Je ne suis pas sortie de ce film comme j'y suis entrée. C'est la seule fois où ça m'est arrivé de toute ma carrière.
Frédéric, la spectatrice, a assisté à la rencontre et elle m'a confié que tu avais déjà été maman dans ta vie perso avant de rentrer dans ce film, comme le rôle de Claire que tu interprètes. Elle a déjà 2 enfants, je crois. En tant que femme, en tant que maman, comment tu l'as vécu ? Et est-ce qu'il y a encore un débat aujourd'hui comme quoi le déni de grossesse n'est pas reconnu, n'est pas peut-être légitimé ? Tu parlais de l'Allemagne.
Aujourd'hui, il y a encore des femmes en France, et ce n'est pas juste une dizaine, c'est plutôt une centaine de femmes qui sont emprisonnées pour avoir fait un déni de...
Emprisonnées à quel moment ? Parce que là, je lis dans le petit texte, Claire, ton rôle, elle va être accusée de tentative d'homicide. Claire, dans le film, ne tue pas son enfant sciemment. Elle le dépose sur une poubelle, on m'a dit. Ouais. Ça veut dire qu'elle espère peut-être que cette vie va continuer.
En fait, c'est tout le débat et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser ça impuni. S'il y a eu un défaut de soins sur un nouveau-né, si le nouveau-né, là, dans notre histoire, il ne meurt pas par chance, mais une personne qui fait un déni de grossesse total, au moment où a lieu l'accouchement, elle ne considère pas que c'est un accouchement et donc elle reste dans un état de sidération, ce qui ne lui permet pas d'envisager ce qui sort de son corps comme un fœtus. Et donc, si elle est seule avec ça, soit il y a quelqu'un et qui peut... heureusement, par chance pour l'enfant, interagir et dire ce qui se passe et appeler de l'aide. Mais la femme toute seule n'est pas en capacité à ce moment-là de comprendre et d'appréhender ce qui se passe.
Donc tout peut se passer.
Le tribunal doit juger du caractère d'homicide volontaire ou involontaire. Et c'est là tout le paradoxe.
C'est complexe comme sujet, hein.
Ah oui,
on en est où aujourd'hui en France ? Tu as suivi un petit peu, apparemment l'Allemagne est plus évoluée. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas ce déni de grossesse, il est encore puni. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont en prison pour ça.
Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en prison et surtout, il y a, leur parole n'est pas écoutée et elles n'ont pas de lieu vraiment où elles peuvent...
Ressources,
où elles peuvent dialoguer entre eux. Elles sont quand même mises au banc. Est considérée globalement comme une forme de sorcellerie, quelque chose de malveillant. Et en France, parce qu'on a besoin d'une chose très rationnelle dans notre appréhension de ça, on laisse ces femmes dans un état d'isolement, de solitude très fort. Quand bien même elles auraient besoin, parce qu'à ce moment-là, elles sont les premières troublées par ce qui se passe. Et il s'agirait de savoir les accompagner. Et effectivement, les Allemands ont fait plus de travail parce qu'ils ont eu l'Allemagne nazie et qu'il y a des enfants qui se sont posés la question d'enfanter. Est-ce que moi, maintenant, je vais enfanter un monstre ? Est-ce que les cellules, qu'est-ce qui fait d'un humain un monstre ? Et la question s'est posée d'une manière tellement aiguë en Allemagne qu'il y a des gens qui ont demandé à être stérilisés. Donc ils se sont posé la question après de l'épigénétique. Qu'est-ce qui est transmis d'une génération à l'autre inconsciemment ? Et ça, on a un début d'explication dans le film « Toi non plus, tu n'as rien vu » sur le déni de grossesse en disant « En fait, c'est peut-être il y a 2 générations, il y a eu un viol, il y a eu un enfant non désiré. » Et alors, dans le corps, ça a imprimé, dans les cellules, ce non-dit a imprimé quelque chose qui ressortirait. C'est aujourd'hui la seule début d'explication qu'on peut avoir. Mais... comme tout ça est très diffus, c'est très compliqué à prouver et ça reste très hypothétique, la justice a du mal à aller là-dedans, ce qu'on peut imaginer. Mais ce qui fait qu'on en est...
balbutiement.
Ouais, au balbutiement.
Balbutiement de l'appréhension de ce... Oui, je t'ai coupé.
On n'arrive pas à aider ces femmes, c'est surtout ça, le malaise, ouais.
Je suis très heureux d'être avec toi, de te tendre mon micro, c'est un honneur. Comment tu as été choisi jury second rôle avec tes collègues Sigrid Boisiz et Abès Zamani.
Alors,
tu connaissais Moulin ou c'est une première ?
C'est la troisième fois que je viens à Moulin. Et Sigrid, j'ai travaillé avec elle. Abès a été mon professeur de théâtre. Donc je les connaissais. Et je sais qu'en tout cas, ils avaient été choisis au moment où on m'a proposé. On m'a dit ce sera avec Sigrid Boisiz et Abès Zamani. Et pour moi, c'était un plaisir. C'est des acteurs que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment singuliers. Et c'est des personnes que j'estime.
Tu as été récompensée à Moulins ?
Non.
Oh, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est pas normal déjà.
Vous dire quelque chose, là, j'ai été récompensée pour ce rôle de Quartz en Suisse.
Oui, mais en 2024, l'année dernière.
Mais je n'ai jamais eu de récompense en France parce que je pense qu'il y a un endroit où on se dit, je le vois dans mon parcours, que je n'ai pas besoin. Moi, il y a une chose, Maud, elle roule. Et j'avais déjà ça au Conservatoire National. Maud, on ne s'inquiète pas pour elle, elle roule, elle trouvera toujours. Je suis la seule à m'inquiéter pour moi-même. J'aimerais bien que ça.
Et je rebondis sur ton rôle, justement, de second rôle. Ce Quartz, ça récompense un second rôle sur un film intitulé Voix Royale. Pareil, c'est des films de sociétaux qui amènent des débats de société, qui amènent à s'interroger fortement sur l'essence de la vie, sa place dans la société. Ce second rôle au cinéma, comment toi tu l'envisages ? Tu as tourné beaucoup de courts-métrages, c'est un festival de courts-métrages, on met à l'honneur les seconds rôles, tu tiens beaucoup au second rôle, ces seconds rôles j'ai l'impression qu'ils te tiennent vraiment à cœur. Comment tu envisages ce second rôle ? Alors on dit second parce que ce n'est pas le premier, mais sans second, il n'y a pas de premier rôle.
Un second rôle, un court-métrage, moi ce qui me plaît c'est l'endroit où le réalisateur désire faire son film et se donne la liberté. Moi ce que j'adore c'est rendre le réalisateur le plus libre possible, le plus proche de son désir, l'aider à aller à explorer ça le plus sincèrement possible, le plus largement possible. Donc après que ce soit via un second rôle, via un court-métrage, que ce soit au théâtre, que ce soit...
Peu importe.
Oui vraiment,
tu apportes ta pierre.
J'adore le second rôle parce qu'il y a une chose qui est assez confortable. On n'a pas la pression, on ne porte pas tout le rôle sur tout le film sur ses épaules. Et je trouve que ça nous offre parfois une liberté parce que peut-être ça fait moins peur. Ça nous offre une liberté d'aller chercher que je trouve absolument savoureuse.
Dans ce film choisi par toi, toi non plus, tu n'as rien vu. Tu es avec Géraldine Nakache, ton amie, qui joue Sophie, l'avocate, ton amie avocate. Dans ce film, tu es second rôle, premier rôle ?
Eh bien, c'est le seul film où j'ai vraiment le premier rôle. Ouais.
Bon, faut absolument que je le voie. Faut absolument que je voie ce film. Est-ce que c'est la première fois que tu es jury, Maud ?
Non.
Ah, on va aller, elle roule Julie, elle roule, elle va trouver des rôles, elle est jury souvent. T'es souvent jury second rôle ?
Second rôle, non, parce que c'est le seul festival qui propose un...
C'est bien ce qui me semblait.
Jury second rôle. Non, j'ai été jury plusieurs fois sur ces courts-métrages. Moi, je trouve que c'est un luxe de voir des courts-métrages parce que justement, on n'est pas encore... Les réalisateurs ne sont pas sur des problématiques financières, de marché, de devoir plaire. Et je trouve que c'est très précieux l'endroit du désir d'un réalisateur. Donc, j'aime, en général, quand on me propose d'être jury, même pour un festival de courts-métrages, si je peux le faire, j'y suis. Je suis au rendez-vous, absolument. Après, second rôle, non, c'est vraiment très particulier à Moulins.
C'est unique en France ?
C'est l'unique en France, où il s'agit vraiment du jeu d'interprétation.
Tu prends ton rôle à cœur, je crois qu'il y a 7 longs métrages. C'est difficile de juger. Jury juge, alors pourquoi lui ou elle plutôt qu'un autre ? Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, tu vas avec ton jury propulser une comédienne, un comédien, mais pourquoi elle et lui plutôt qu'un autre ? Peut-être à ce moment-là, c'était son heure ?
Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait des comédiens meilleurs que d'autres. Il y a à chaque fois, des rencontres, c'est à chaque fois un dialogue, et c'est à chaque fois surtout des tentatives. Je veux dire, au moment où on se met à jouer, on ne dit pas « Ah voilà, j'ai trouvé, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ». Moi, ce que j'adore, c'est l'artisanat de ça, c'est l'humilité qui va avec ça. Tout ce qu'on peut proposer comme acteur, c'est « Voilà où j'en suis de cette réflexion avec toute cette équipe », parce que c'est toujours collégial, et c'est ça qui est... que moi j'adore. Non. On n'est jamais bon tout seul. Jamais.
On n'est jamais bon tout seul. Et on propulse une histoire plus que des comédiens. Je vois ton t-shirt et ça va être ma dernière question, Maud, parce que les organisateurs m'ont fait signe, faut y aller, faut rouler, elle va rouler. Tu vas manger dans un restaurant super à Moulins. Je ne t'en dis pas plus. Où Coco Chanel allait manger.
C'est vrai ?
Alors, je ne t'ai rien dit, mais voilà, c'est un lieu où Coco Chanel allait. C'est splendide. On se reverra pendant le festival, tu me débrieferas. Festival Ciné-Palestine, il faut absolument que je te parle de ça. Après, je te laisse aller manger tranquillement. FCP, Festival Ciné-Palestine. Ça se passe où, quand ?
Alors, ils ont des dates un peu partout en France. À Paris, ça a lieu début juin. Et c'est des programmations vraiment que de réalisateurs, de réalisatrices palestiniens. Pour un peuple qui a été invisibilisé pendant des années, c'est un festival qui existe depuis 11, 12 ans, qui existe depuis longtemps. Et j'espère qu'il va continuer à exister et que les films que moi j'ai pu voir dans ce festival m'ont bouleversé. Et pas simplement pour des raisons historiques, mais parce que j'ai vu des artistes avec un travail sur l'image, avec un travail sur le son. J'ai vraiment vu des cinéastes et j'espère que ces films vont un jour nous être donnés à voir plus largement.
Merci Maud, merci beaucoup. Bon retour à Moulins parce que tu étais déjà venue. Bon repas et puis peut-être qu'on se recroisera dans les couloirs. Là, je peux pas te demander d'opinion sur les films, c'est la question interdite. Bon festival à toi et au plaisir de te revoir. Merci pour ce moment privilégié. Tu as eu des mots forts, c'est super. Merci du temps que tu m'as consacré.
Ben, merci beaucoup d'avoir écouté, merci.
À plus, à bientôt.
Ouais, à bientôt.
Allez, à plus. Bonne app, salut.
Merci.
Amis auditeurs, je sors d'une séance, il est à ma montre 11h05 et j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Baptiste Durand. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Quand je te vois, j'ai envie de te tutoyer. Est-ce qu'on peut se tutoyer ?
Avec joie.
Oh bah c'est super. Je suis très heureux de te tendre mon micro, mais je dois te confesser quelque chose. Alors j'espère que tu vas pas devenir violent comme dans le film que l'on vient de voir, qui était super, intitulé La danse des renards. Jean-Baptiste, tu es le réalisateur de Chien de la casse. Je n'ai pas vu Chien de la casse. J'ai eu plein d'opportunités et ça s'est pas fait. Pour l'instant, je suis passé à côté. Ça a été un succès. Je crois que c'est 2023 le film. Hein.
Oui.
2023.
Oui, c'est ça.
Ça a été un succès immense. Tout le monde en a parlé. La révélation de Raphaël Quenard. Ton César. César du meilleur premier film. Et tu es là. Alors je me suis dit, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais le voir ou pas ? Et tu me semblais tellement sympathique. Je me suis dit, allez, je tente ma chance. Comment vas-tu ?
Bien, mais c'est pas grave de ne pas avoir vu Chien de la casse. Moi, il y a plein de films que j'ai pas vus, tout va bien.
C'est une première à Moulins ? C'est une première visite, Jean-Baptiste ?
Dans la ville et dans le festival, oui, c'est une première.
Alors, comment tu es arrivé chez nous, là, dans notre festival ?
Avec le TGV Inouï, Montpellier-Moulins, en passant par Lyon.
C'est souvent Paris-Clermont en passant par... Là, ça bug. Mais tu as été sollicité, ce sont les organisateurs qui t'ont dit, qui ont sélectionné le film et qui t'ont dit, Jean-Baptiste, si tu peux venir, viens nous faire une visite.
Ouais, apparemment, j'ai été nommé en second rôle. Donc du coup, on m'a dit de venir et j'ai dit avec joie parce que j'entendais beaucoup parler de ce festival et on s'est pas repris à deux fois pour me proposer.
J'ai apprécié vraiment la rencontre avec le public. Tu as dit des choses fortes, très, très intéressantes, que tu es en quête permanente d'expériences qui te font grandir, j'ai l'impression. Hein, c'est ce que j'en ai retenu. Un petit mot sur Chien de la casse quand même parce que... Ça a été... Alors, j'ai regardé brièvement ton parcours, je te découvre, tu as une multitude d'expériences. Cet effet cristallisateur, si je puis dire, cet effet bijou, pépite du Chien de la casse, comment tu l'as géré ? Parce que je ne l'ai pas vu et je sais que c'est un succès formidable.
Je sais pas trop, hein. J'habite en province, à Montpellier déjà. Donc ça permet de nous éloigner de la capitale et de la folie parfois. Donc je l'ai géré comme je pouvais. Après, c'est pas non plus vraiment en dehors des moments où je travaille pour Chien de la casse, où je viens parler du film. Je suis chez moi avec mes potes, je travaille et tout va bien. Après, on est sollicité par les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux et à beaucoup d'événements. Mais voilà, moi je réponds aux gens qui m'écrivent, je fais le tri dans les propositions et ça m'a plutôt apaisé pour la suite. C'est tellement de travail de faire un film. Quand on a de la reconnaissance comme ça, on est en plus en paix pour continuer. Mais avec aussi jumelé avec le syndrome de l'imposteur où pour moi il y a eu autant de films... très beau et même que plus beau que le mien et qui ont moins eu de lumière et c'est tellement de boulot que je pense aussi aux autres copains et copines qui méritent tout autant. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de mérite, c'est un peu une conjoncture, il y a quelque chose qui s'est passé avec le film Mais j'ai tout approuvé sur le second, sur le troisième, et si j'ai la chance d'en faire d'autres, quoi.
Qu'est-ce qui a fait émerger justement ce film ? C'est l'histoire, c'est comment on t'en parle de ce succès couronné d'un César ?
Franchement, j'en ai aucune idée. Ça, il aurait jamais dû marcher autant, parce que j'avais pas eu de sélection dans les gros, enfin dans les festivals catégorie A.
C'est quoi catégorie A ? Il y a A, B, C.
Non, c'est les Cannes, Berlin, Locarno, oui. Venise, Toronto, Sundance, Saint-Sébastien.
La Ligue des Champions.
Donc il a, ouais, le premier festival, c'était Angers, qui est un très beau festival, mais qui a pas la lumière de Cannes, on va dire. Et donc c'est un peu une anomalie le succès de Chien de la Casse. Donc il a eu une sortie en salle assez modérée, avec, je crois qu'il y avait 80 salles au début. Et en fait, il est resté en salle très longtemps et les salles ont augmenté. Donc il y a eu un bouche à oreille assez phénoménal par le public. La critique a été aussi très, très active dans le succès du film. Je peux citer France Inter notamment, qui n'était pas partenaire du film et qui en a parlé pendant quasiment 2 ou 3 mois. Tous les samedis matins, Christine Masson et Laurent Dalmas en ont parlé. Alors qu'on leur avait...
On aura tout vu, l'émission cinématographique.
C'est ça, on aura tout vu. Donc en fait, moi je remercie vraiment les spectateurs, les spectatrices, les critiques, le distributeur aussi qui a suivi là-dessus. Mais moi, ça m'a dépassé. C'est-à-dire, a priori, mon film devait rester 3 mois en salle et faire moins de 25 000 entrées. Et en fait, au fur et à mesure, on m'en parlait. Puis après, il y a Raph aussi.
Raphaël Quénard, exceptionnel.
Grâce au film. Et puis il y a Yannick qui est sorti 3 mois après, qui a redonné de la visibilité au film. Donc il y a tout un tas de paramètres. Et puis je sais pas, je suis le dernier à pouvoir l'expliquer, mais le film effectivement est resté dans la... Ouais, chez les gens. Il y en a qui me disent l'avoir vu 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'en sais rien. Moi j'ai juste fait mon petit film sincère en parlant de ce que je connaissais. Et puis je suis le dernier à pouvoir expliquer le succès en fait.
Eh bien, on n'en dit pas plus. S'il y a d'autres auditeurs, s'il en reste quelques-uns qui n'ont pas vu le film, on vous conseille, amis auditeurs, de vous précipiter, d'aller voir Chien de la Casse. Qu'est-ce que tu aimerais aborder ? Peut-être le prochain film ? L'homme ?
L'homme qui avait peur des femmes.
Ah bah là, on a envie de le voir déjà. Il n'est pas fini d'écrire, on a envie de le voir. C'est un peu ton cas ou pas ?
Non, il y a ma compagne.
Oui, qui est là, qui est souriante. Et vous me dites, hein, quand on peut plus, bientôt ? Attends, bouge pas. Et vous me dites, hein, quand on n'en peut plus, quand vous n'en... 5 minutes
ouais,
oh, super, merci. Merci. 4. Et j'ai ouvert la porte alors que la porte était ouverte. Je suis totalement perturbé. On a 4 minutes. Ta compagne nous a donné 4 minutes. Sur ton prochain, on va parler de l'avenir. Alors, qu'est-ce que tu... Ça parle de quoi ? De ta vie, où tu veux pas trop en parler ?
Je peux en parler, non, de ma vie...
Intime, peut-être, de...
Non, bah après, je fais pas des autofictions. Non, c'est un film... c'est une histoire toute particulière qui n'est pas la mienne. Peut-être que ça peut raconter des rapports que j'ai eu aux femmes adolescents, mais non, c'est vraiment des personnages créés de toutes pièces. Mais ça m'intéressait de parler de masculinité vulnérable aujourd'hui, en 2025, et même du point de vue d'un homme hétéro. Je voulais parler d'un homme... non pas sous le prisme d'un viriliste, machiste, et c'est très bien de parler de ce type d'homme, mais moi je voulais mettre en lumière les hommes sensibles, un peu fragiles, vulnérables dans leur rapport aux femmes, et c'est vraiment ce portrait-là, pareil que Chien de la Casse, hein, de mettre en lumière une majorité invisible, ces hommes dont on parle peu, et peut-être que je fais partie de cette catégorie, si tant est qu'il y a une catégorie, mais moi c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un d'assez assez introverti, assez timide, et je suis pas un séducteur invétéré, machiste et tout ça. Donc ça me tenait à cœur de faire le portrait tout simplement d'un homme un peu empêché dans son rapport aux femmes, qui a une quarantaine d'années et qui va vivre une aventure amoureuse des plus fantasques et comprendre, s'apprendre un peu mieux et se réaxer dans son rapport aux femmes.
Bon ben, on attend avec impatience le film. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci pour ce moment. Là il y a 4 minutes, c'est sûr. Merci pour ce moment, ça fait plaisir de voir un homme comme toi. Tu m'as touché, tu me touches. T'es doux, tes mots sont forts, t'as un physique particulier. Tu es sollicité, particulier, positif, hein. Tu marques, t'as une gueule. T'es doux, mais ta carapace peut paraître dure. Bon, allez, 4 minutes. On arrête. À bientôt, Jean-Baptiste. Merci pour ce moment précieux. Au plaisir de te revoir.
Merci à toi, c'était une belle interview, j'ai aimé te rencontrer aussi.
Merci, merci monsieur, merci. Tu restes un peu au festival ou tu...
Jusqu'à samedi,
on se reverra. Merci Jean-Baptiste, bonne soirée.
Merci, bonne soirée à toi.
Salut. Voilà, amis auditeurs, c'est la fin de cette deuxième journée en direct, si je puis dire, au cœur du Festival de cinéma Jean Carmet. Alors, pas tout à fait en direct, hein, parce que l'émission et ce podcast est enregistré, mais voilà, dans les conditions du direct, vous y êtes. Nous sommes en fin de projection du film intitulé La danse des renards, avec un super second rôle tenu par Jean-Baptiste Durand, que vous venez d'écouter. Là, il n'y a plus personne dans le cinéma. On va fermer. L'équipe est dehors. On va continuer la soirée sympathiquement. Tu fermes là ? Il n'y a plus personne ?
Oui.
C'est comment votre prénom, monsieur ?
C'est Simon.
Simon, tu es le chef du cinéma, Simon ?
Le demi-chef, mais
le
oui.
Le demi-chef. Faut sortir, me dis ?
Ça suffit.
On n'en peut plus.
Pour le festival.
Merci. Merci, Simon. Allez, Simon, il me met dehors et il a bien raison. Amis auditeurs, nous nous retrouvons demain avec le plus grand des plaisirs. Salut !